Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 6h30 à Paris et à Khartoum, 2h de moins en temps universel. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Jeanne, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal, 4 millions de Soudanais ont fui leur pays depuis le début de la guerre en avril 2023.
Un nombre mis en avant par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés qui souligne une nouvelle fois l'urgence humanitaire créée par le conflit. 4 millions, dont un quart environ, sont au Tchad. L'Est du Tchad qui n'a aujourd'hui pas les moyens de les accueillir convenablement, nous expliquera un responsable du HCR sur place. Dans ce journal également, Médecins sans frontières qui appelle à protéger les civils des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier ces derniers jours dans le territoire de Rutshuru. Le Kenya et la cyberactiviste Rose Njeri, remise en liberté mais toujours poursuivie par la justice. Elle qui a créé une plateforme en ligne pour permettre aux Kenyans d'exprimer leur désaccord avec la proposition de loi de finances. Une étude sur la qualité de l'air en Afrique du Sud et vous l'entendrez, les résultats ne sont pas bons. Et puis les sports, début aujourd'hui du Tour cycliste du Cameroun, première étape dans la ville de Maroua, et rendez-vous avec Victor Missistrano dans une dizaine de minutes pour le Journal des Sports. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés parle d'un jalon dévastateur dans la plus grave crise de déplacement de population au monde. Le HCR a compté 4 millions de Soudanais qui ont fui leur pays depuis avril 2023, depuis le début de la guerre qui oppose le président de la transition, le général Al-Burhan, à la tête de l'armée nationale, et son ex numéro 2, le général Hemeti, chef des paramilitaires FSR. Un peu plus de 2 ans de guerre, où en sont aujourd'hui les forces en présence? On fait le point avec Alexis Guilleux.
Plus de 2 ans de guerre et la ligne de front reste quasiment la même. Le pays est toujours coupé en deux. L'armée soudanaise, dont le commandement est toujours installé à Port-Soudan, contrôle l'est du pays ainsi que le sud-est, alors que les paramilitaires des forces de soutien rapide contrôlent tout l'ouest du pays, c'est-à-dire le Darfour et une partie du sud-ouest. Parmi les dernières avancées, l'armée soudanaise a réussi à reprendre il y a quelques mois le contrôle de l'état d'Al Jazeera, grenier à blé du pays, et surtout a repris en mars dernier le contrôle de la totalité de la capitale, Khartoum. Cœur d'intenses combats depuis le début de la guerre et où aujourd'hui s'est répandue une épidémie de choléra. Depuis, les paramilitaires ont redirigé leur offensive sur l'ouest, sur la ville d'El Fasher, capitale du Darfour Nord, dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée régulière. C'est désormais là que se concentre le conflit. Une guerre qui perdure, alimentée par le soutien matériel de puissances étrangères.
Et dernièrement, autour justement de cette ville d'El Fasher, les forces de soutien rapide ont attaqué et pris le contrôle du gigantesque camp de déplacés de Zamzam. Une partie de ses occupants a décidé de prendre la direction du Tchad voisin. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, le HCR, affirme que ce sont en moyenne chaque jour 1400 personnes qui continuent de passer la frontière avec le Tchad. Et il est estimé aujourd'hui que le Tchad accueille 800 000 Soudanais sur son territoire, mais sans vraiment avoir les moyens de le faire. Abri, eau, nourriture, soins, tout est compliqué. Écoutez, Doussou Patrick Awansou, coordinateur principal de la situation soudanaise à l'est du Tchad pour le HCR.
Pour les abris qui permettent déjà d'accorder une protection physique, nous arrivons seulement à répondre à 14% des besoins. Seulement 14% des besoins. L'eau, on arrive à fournir seulement 5 litres d'eau par jour, alors que les standards, c'est entre 15 et 20 litres. Donc 5 litres d'eau, vous voyez très bien qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Boire, se laver, cuisiner, c'est extrêmement compliqué. Autre chose, c'est que 14% d'enfants sont en situation de malnutrition. Et puis, on a quoi? Un centre de santé pour 110 000 personnes. Et malheureusement, à ce jour, on a encore près de 290 000 qui sont à la frontière à attendre d'être localisés. Il faut trouver la terre, il faut trouver les abris pour pouvoir leur donner un toit. Il faut trouver des moyens aussi pour pouvoir transporter les gens. Donc, la logistique est aussi un grand défi. Puis, la saison des pluies approche. Et c'est ça la plus grande inquiétude aujourd'hui. On risque d'être coupé sans accès physique, quoi, aux personnes qui sont en détresse.
Doussou Patrick Awansou, du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, joint par Florence Maurice. Et notez par ailleurs que le secrétaire général de l'ONU réclame une enquête urgente après l'attaque qui a visé lundi avant-hier donc un convoi d'aide humanitaire destiné à la ville d'El Fasher. 5 membres de ce convoi du Programme Alimentaire Mondial et de l'UNICEF ont été tués et les 2 camps belligérants de cette guerre au Soudan se renvoient la responsabilité. Combat et urgence humanitaire également également en République démocratique du Congo, où Médecins sans frontières appelle à protéger les civils, notamment autour de Bambo, dans le territoire de Rutshuru, au nord-ouest de Goma, zone qui concentre ces derniers jours les combats entre l'armée congolaise et les rebelles de la FCM-23, ainsi que leurs alliés respectifs. Aujourd'hui, assure MSF, l'une des rares organisations médicales internationales présentes sur place, les capacités d'accueil de Bambo sont saturées, l'hôpital est sous pression. François Callas est le chef des programmes de MSF en RDC.
Nous avons reçu sur les 15 derniers jours une trentaine de blessés à l'hôpital de Bambou, victimes des combats qui ont eu lieu autour et dans la ville de Bambou. Des balles perdues, essentiellement. Il y a eu des maisons brûlées et des civils qui ont été au centre des combats, parce que les combats n'ont pas épargné les villages. Il y a eu dans certains cas des pillages, donc les gens sont très stressés.
Certains témoignent également d'exécutions sommaires.
C'est ce qui nous a été rapporté, effectivement, de plusieurs sources. Il y a eu effectivement des exactions qui ont été commises contre des populations civiles, semble-t-il. Ces populations ont besoin que les parties au conflit épargnent les villes et les centres peuplés, les structures sanitaires aussi, et que les acteurs de l'aide puissent faire leur travail pour donner de l'assistance et que ces populations qui sont vraiment victimes de ce conflit soient reconnues en tant que telles.
François Callas, chef des programmes de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Et des civils de l'Est congolais également pris pour cible par le M23 dans les zones que la rébellion contrôle dans l'Est de la RDC, notamment à Goma, affirme Human Rights Watch, l'ONG qui parle d'exécution sommaire de civils dans la capitale du Nord Kivu. Elle donne l'exemple d'au moins 21 personnes tuées au mois de février et d'y craindre des chiffres en réalité bien plus élevés. RFI 5h36 à N'Djamena au Tchad, où l'opposant Succès Masra a été entendu par un juge hier sur le fond. Pour la première fois depuis son arrestation il y a maintenant 3 semaines, l'ancien Premier ministre est accusé d'incitation à la haine et à la révolte, accusé également de constitution et complicité de bandes organisées, soupçonné en fait d'avoir incité au massacre d'une quarantaine d'éleveurs par des cultivateurs au mois de mai dans sa région natale du Logone occidental. Ses avocats, qui rappellent qu'il s'agit selon eux d'une procédure politique, estiment tout de même que l'audition d'hier par un juge d'instruction s'est globalement bien passé. Elle a été libérée sous caution hier au Kenya. La cyberactiviste Rose Njeri, développeuse informatique, elle avait été arrêtée vendredi après avoir créé une plateforme en ligne qui permet aux citoyens kenyans d'exprimer leur désaccord avec la proposition de loi de finances pour l'an prochain. Hier au tribunal de Nairobi, Rose Njeri a été inculpée pour interférence non autorisée avec un système informatique. Correspondance de Gaël Lalex.
D'après le ministère public, Rose Njeri est responsable d'avoir créé un programme informatique qui inondait de messages indésirables la commission des finances du Parlement. Une atteinte, donc, aux consultations citoyennes en cours sur la proposition de loi de finances. Un argumentaire que la défense de Rose Njeri trouve fallacieux. L'acte d'accusation est gravement défectueux et ne peut servir de base à une plaidoirie, explique Faith Odhiambo, présidente de la Société kenyane du droit. Cette affaire suscite une vive émotion au Kenya. Pour sa défense, Rose Njeri a joui des services d'une centaine d'avocats pro bono, dont l'ancien président de la Cour suprême, David Maraga, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Kalonzo Musyoka, tous deux pressentis candidats à la prochaine élection présidentielle. Ils connaissent le pouvoir des idées et les redoutent, affirme Rose Njeri à la sortie de l'audience. À la jeunesse kenyane, elle déclare « N'ayez pas peur de penser, soyez inspirés, restez fermes dans vos convictions, peu importe les intimidations ». Rose Njeri a recouvré la liberté hier après le paiement d'une caution de 100 000 shillings, environ 700 euros. La prochaine audience est prévue le 20 juin. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
À La Haye, c'est au mois de septembre que la Cour pénale internationale confirme qu'une audience dite de confirmation des charges se tiendra bien contre Joseph Kony. Première fois qu'une telle audience se tiendra en l'absence de l'accusé. Introuvable, Joseph Kony est le chef du groupe armé LRA, actif notamment en Ouganda à partir des années 1980, mais aussi dans les pays voisins comme la Centrafrique ou le Soudan du Sud. Joseph Kony est soupçonné de 39 chefs d'inculpation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et il faut rappeler que s'il peut y avoir confirmation des charges, il ne peut pas y avoir de procès par contumace à la CPI. Mais les procureurs estiment que si les charges sont confirmées, cela accélérera un éventuel procès si Joseph Kony était arrêté. Quel air respire-t-on en Afrique du Sud? L'ONG Greenpeace Afrique et le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air dénoncent la mauvaise qualité de l'air sud-africain et ses conséquences sur la santé des habitants. En cause les centrales à charbon et l'industrie pétrochimique du pays. Et les deux organisations déplorent que cette question importante de santé publique soit trop peu étudiée. À Johannesburg, Claire Bargelès.
Ce n'est pas la première fois que Greenpeace se penche sur l'état de la qualité de l'air en Afrique du Sud. L'organisation avait déjà souligné dans un précédent rapport que le pays comptait parmi les plus gros pollueurs du continent. Cette fois-ci, l'accent est mis sur les conséquences en termes de mortalité, comme le détaille Cynthia Moyo, représentante de l'ONG.
En 2023, l'exposition aux particules fines était responsable de 42 000 décès prématurés en Afrique du Sud. Cela inclut plus de 1 200 enfants de moins de 5 ans et le coût économique de cette crise est faramineux. Il est estimé à plus de 960 milliards de rand en 2023, ce qui représente 14% du PIB de l'Afrique du Sud.
Certains territoires sont particulièrement touchés par la pollution de l'air, comme la région très développée autour de Johannesburg ou la zone du Mpumalanga, où se trouvent nombre de centrales à charbon. La militante Sharon Bonani habite pour sa part non loin de l'énorme usine pétrochimique de Sassol, considérée comme l'un des sites les plus pollueurs au monde.
Personne n'est tenu pour responsable face à toutes ces maladies qui apparaissent au sein de nos communautés. On octroie au contraire des permissions pour que ces entreprises continuent à tuer des gens.
Les auteurs du rapport appellent l'État sud-africain à s'aligner sur les seuils recommandés par les Nations Unies, qui sont 4 fois plus bas que ceux mis en place dans le pays. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, le Nigeria, où le coordinateur humanitaire de l'État du Niger avance le chiffre de 200 morts après les pluies diluviennes qui ont touché cette région de l'ouest du pays la semaine dernière. Des recherches sont encore en cours et le responsable s'attend à ce que le bilan s'aggrave. Au Niger voisin, 4 ONG internationales réclament la libération de Moussa Tchangari, figure de la société civile nigérienne, incarcéré depuis le mois de décembre sur des accusations de complot en intelligence avec des puissances ennemis. Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale pour les droits humains et l'Organisation mondiale contre la torture. Toutes demandent également aux militaires au pouvoir à Niamey d'abandonner toutes les charges pesant contre Moussa Tchangari. À Niamey, où il est maintenant 5h42.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
6h42, ici à Paris, Afrique Matin à suivre, rencontre à Yaoundé avec Dr Kevin, lauréat du prix RFI Talent du Rire l'an dernier et fer de lance de l'humour camerounais. Et du Cameroun, nous irons ensuite au Ghana, où est désormais commercialisé un niébé génétiquement modifié. Les rendements sont meilleurs, mais certains agriculteurs craignent d'être dépossédés de leur savoir-faire. Enfin, avec notre invité, on parlera des entreprises françaises en Afrique, le patron des opérateurs économiques hexagonaux sur le continent. Il faut être moins frileux, assure-t-il. Rendez-vous tout à l'heure avec Christophe Boisbouvier. Mais tout de suite, ce sont les sports. Et les sports ce matin avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
On commence avec du cyclisme. C'est le grand départ aujourd'hui de la 21e édition du Tour du Cameroun.
Première des 10 étapes ce mercredi. Durant ce tour, le peloton de 66 coureurs va parcourir 7 des 10 régions du pays. Et le favori de cette édition 2025 n'est autre que le tenant du titre à domicile, une figure du cyclisme africain, Clovis Kamzonga Bosolo. À Yaoundé, la correspondance de Joël Wadem.
La succession du Camerounais Clovis Kamzon Abesu, le vainqueur de l'édition de 2024, est ouverte. Mais le capitaine de SNH Vélo Club, qui a déjà remporté cette compétition à 3 reprises, rêve d'un 4e sacre.
Je sais que je serai le coureur le plus contrôlé du peloton parce que je suis le vainqueur sortant et tout le monde me craint. J'ai gagné l'année dernière et je n'ai pas avec l'objectif de gagner cette année ou être peut-être le seul coureur qui a pu doubler. On attend le début de la compétition pour pouvoir essayer de réaliser notre rêve.
Pour y parvenir, le lion du vélo devra dominer des compétiteurs venus d'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et des pays européens, à l'instar de la Hollande et de l'Allemagne. L'Ivoirien Cissé Issiaka, qui a remporté le tour de son pays en 2018, est un sérieux prétendant au podium final.
L'année dernière, j'ai terminé 4e. Cette année, on verra au fil des étapes, au fil des jours. Ma première compétition de l'année, donc voilà, je ne sais pas où je suis. Au niveau des formes, on vise les victoires d'étape au fur et à mesure. On verra ce qu'on peut faire de plus.
Au cours des prochains jours, les différents coureurs seront confrontés à des parcours vallonnés, montagneux et même du plat, sur une distance au total de plus de 1100 km. C'est le 15 juin que le tour s'achèvera avec l'étape Ngoulmakong-Yaoundé. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et pour l'heure au menu du jour, Xavier, première étape de ce Tour du Cameroun, une grande boucle de 128 km autour de Maroua.
Et on passe au football. Comme chaque année, le sud-est de la France accueille un tournoi international réservé aux sélections des moins de 20 ans.
Et cette année, deux équipes africaines sont de la partie, le Mali et le Congo-Brazzaville. Les aiglons maliens ont donné le coup d'envoi de la compétition hier contre le Panama, entrée en lice manquée avec une défaite 2-1. Aujourd'hui, les Congolais débutent contre le Japon. Coup d'envoi 12h, temps universel.
Et chez les grands, Victor, la plupart des sélections s'apprêtent à disputer deux matchs amicaux.
C'est le cas pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui se rendent au Canada, pays que les champions d'Afrique vont affronter après s'être d'abord mesurés à la Nouvelle-Zélande ce dimanche. Amad Diallo devait faire son retour après trois rassemblements manqués. Ce ne sera pas pour cette fois. Le sélectionneur Emers Faye a bel et bien convoqué l'ailier de Manchester United. Mais celui-ci doit renoncer pour des raisons administratives. Même chose pour le milieu Mario Dorgelès. Ils sont remplacés par Emmanuel Latt, joueur d'Atlanta United, et Morik Bané du Stade de Reims. Information de la Fédération ivoirienne de football.
Merci Victor Missistrano, c'était le journal des sports. L'actualité internationale de ce mercredi 4 juin est le comité international de la Croix-Rouge qui confirme la mort de 27 personnes après des tirs hier à l'aube près d'un centre de distribution d'aide à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Cela arrive deux jours après un drame similaire au même endroit. 31 personnes avaient alors été tuées. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits humains dénonce des crimes de guerre. La défense civile de Gaza indique par ailleurs que 19 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à travers le territoire palestinien. Donald Trump signe le décret qui fait passer dès ce matin de 25 à 50% les droits de douane imposés aux importations d'acier et d'aluminium. Il s'applique désormais à tous les partenaires commerciaux des États-Unis, à l'exception du Royaume-Uni. Et le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium pour les Américains, le Canada négocie son exclusion. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu, est à Pyongyang. Il va rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. C'est ce qu'annoncent ce matin les agences russes TASS et RIA Novosti. Et puis en Corée du Sud, le dirigeant de centre-gauche Lee Jae-myung a été investi président ce matin au lendemain de sa victoire avec 49,4% des voix. Correspondance à Séoul dans le prochain journal dans un quart d'heure. Et rencontre maintenant avec l'une des pépites de l'humour camerounais, Docta Kevin, récent lauréat du prix RFI Talent du Rire. Il vient de présenter un nouveau spectacle à Douala et à Yaoundé. Reportage de Richard Onanena.
Le père avait sa façon de vendre. Si vous ne voulez pas acheter, je peux aussi lire.
Sur scène, Docta Kevin ne manque pas de charisme. Il se raconte avec autodérision dans un français limpide. Un humour de famille sans grossièreté.
C'est éviter d'être vulgaire, dire des choses sans dire, on n'est pas obligé de faire des obscénités pour faire comprendre des choses aux gens. On peut parler de sexe sans prononcer le mot sexe, on peut parler de politique sans dire politique, on peut parler de beaucoup de choses. Donc je pense beaucoup plus que c'est vraiment un humour de valeur.
J'ai vu tu parler dans ses oreilles, c'est gâche à vous. C'est ton mari?
Ce soir, à l'Institut français de Yaoundé, son public est venu lui témoigner sa sympathie. Anita et Claudel ont vu les deux premières représentations de son spectacle.
Beaucoup de rire, beaucoup de joie, et on se sentait vraiment impliqué. Le fait qu'il faisait participer le public, on se sentait vraiment impliqué. C'était pas un monologue.
Pour moi, c'est un talent brut, pur, et je pense que le meilleur reste à venir. Donc, que du bonheur, vraiment du bonheur.
Pourtant, de l'aveu du lauréat RFI Talent du Rire 2024, rien ne le prédestinait à faire carrière dans l'humour, une aventure qu'il a pourtant démarrée en 2012. Ce parcours, il le raconte aussi dans son spectacle « My Life ».
C'est vrai que c'est assez long, on ne peut pas résumer en une heure, c'est pas possible, mais c'était juste prendre quelques petites séquences marquantes de ma vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais « My Life », c'est un peu mon tout petit parcours.
Dans le milieu de l'humour, le talent de Docta Kevin est reconnu. Pour l'humoriste Ulrich Takam, au-delà d'être drôle, c'est aussi un artiste entrepreneur.
Je le trouve super intéressant comme artiste parce qu'il y a une grosse volonté de donner aux autres avec sa petite troupe du gospel comédie club. Donc je trouve qu'il a commencé à entreprendre bien avant la célébrité, ce qui est déjà une très bonne chose. Au-delà d'être drôle, c'est un bel artiste.
Mais il y a des joueurs célèbres quand même, et t'es dit chérie, j'ai pas les habits, j'ai pas les chaussures, et tu vois la carte de robe est pleine.
Outre l'humour, Dr. Kevin travaille dans le secteur de la communication. Il a prêté sa voix à plusieurs entreprises pour des spots publicitaires. À 40 ans, le fondateur du Gospel Comedy Club aimerait vivre de son art. Richard Onalena, Yaoundé, RFI.
Et demain, le reportage Afrique à la même heure sera au Sénégal. Notre correspondante à Dakar nous racontera la quête de moutons à l'approche de la Tabaski. Quel prix à payer pour de meilleurs rendements agricoles au Ghana? L'un des principaux producteurs de niébé, qui est une fève proche du haricot. Et les paysans du nord du pays peuvent, depuis l'an dernier, cultiver et commercialiser un niébé génétiquement modifié, conçu localement. Selon les chercheurs qui l'ont mis au point, cette variété résiste mieux au climat et aux parasites, qui sont responsables de centaines de millions de dollars de pertes chaque année. Mais cette évolution n'est pas perçue d'un bon œil par l'ensemble de la communauté agricole ghanéenne. Certains fermiers craignent notamment d'être dépossédés de leur organisation traditionnelle. Afrique Économie, au Ghana, reportage de Victor Cario.
Plus de résistance face aux ravageurs de cultures, moins de pesticides, un rendement jusqu'à 4 fois supérieur à sa variété traditionnelle, voici les promesses du niébé BT, cette légumineuse génétiquement modifiée commercialisée depuis juillet 2024 au Ghana. Jérine Bionné est l'un des chercheurs ghanéens qui ont conçu cette variété.
C'est le fruit d'un travail collaboratif avec le Burkina Faso et le Nigeria. Nous avons négocié ensemble auprès de Bayer Monsanto pour avoir accès au gène avec lequel nous avons développé le niébé.
Selon le chercheur, les premières récoltes en octobre 2024 ont été un réel succès. Ce, malgré une sécheresse intense provoquant de nombreuses pertes chez les fermiers ayant planté le niébé traditionnel. Mais au-delà du rendement, Jérine Bionné espère surtout préserver la santé des agriculteurs.
Les fermiers ne souffriront plus de l'empoisonnement lié à l'usage de pesticides. Même chose du côté du consommateur. L'empoisonnement dû aux insecticides présents sur le niébé que l'on a acheté appartiendra au passé.
D'autres acteurs de l'agriculture ghanéenne craignent au contraire que ces nouvelles variétés provoquent une multiplication du risque sanitaire. Parmi eux se trouve l'Association des fermiers paysans du Ghana, forte de plus d'un million de membres à travers le pays. Awal Wepia en est le président. Il craint également une dépossession de la production au profit de multinationales du génie génétique.
Cela risque de détruire notre système traditionnel de distribution de graines. Nous avons des producteurs de graines. Si on introduit les cultures OGM, bien entendu que cela va supprimer leur travail. Les vrais problèmes à régler sont l'irrigation, la valeur ajoutée des cultures, la mécanisation et le marketing.
Réunis en coalition, les anti-OGM ont saisi la justice ghanéenne à 2 reprises sans succès. Les tribunaux ont néanmoins insisté sur la nécessité de respecter le droit en vigueur par un corps législatif complet, selon Samuel Amofa, chargé de communication à l'Autorité nationale de biosécurité, la NBA.
Nous avons la loi de biosécurité, également la régulation sur la biosécurité, qui prévoit les lignes directrices sur ce qu'on peut cultiver. Nous sommes également signataires de nombreux protocoles internationaux en vigueur dans le monde entier.
À ce jour, le Ghana a autorisé la commercialisation de 14 autres cultures OGM de maïs et de soja. Victor Cariou, Accra, RFI.
À Accra, au Ghana, il est 4h53. 6h53 ici à Paris, où notre invité Afrique ce matin pense que les entreprises françaises sont trop frileuses sur le continent et qu'elles doivent s'y réengager. Et notre invité, c'est Étienne Giros, le patron des opérateurs économiques français en Afrique, ancien du groupe Bolloré. Il préside depuis 11 ans maintenant le SIAN, l'association professionnelle qui regroupe les entreprises françaises sur le continent africain. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont encore 5000 opérateurs économiques français qui emploient 700 000 personnes. Et Christophe Boisbouvier a demandé à Étienne Giros pourquoi certains entrepreneurs français renonçaient à leurs projets sur le continent africain.
Parce qu'ils sont confrontés à un ressenti du risque africain qui est élevé. Le départ de la France, dans des conditions compliquées, on va dire ça comme ça, du Sahel, les affaires de conformité avec le risque réputationnel ou le risque d'être traité devant les tribunaux, les questions de la corruption qui perdurent et la petitesse des marchés fait que les entreprises françaises y réfléchissent à 2 fois avant d'aller sur place. Eh bien, notre travail, c'est de faire baisser le ressenti du risque en disant non, l'Afrique n'est pas plus risquée qu'ailleurs, et deuxièmement, en disant petit marché de deviendra grand. Une classe moyenne en Afrique arrive, la croissance démographique est là et ce continent est ouvert sur le monde.
Concrètement, Étienne Giros, vous racontez dans votre livre l'histoire d'une entreprise française implantée en Afrique qui réclamait son argent. Le ministre des Finances de l'État concerné lui a répondu « Je vous paye si vous me donnez 10% en dessous de table ». C'est ce qu'on appelle du chantage. Comment cette entreprise française s'en est tirée ?
Eh bien, elle s'en est tirée parce que c'était un grand groupe qui avait les reins solides. Elle a attendu, elle a discuté avec les bailleurs de fonds, elle a rendu public, non pas dans la presse, mais à certaines personnalités, cet état de fait. Et finalement, au bout d'un an et demi, ça a été réglé. Mais une entreprise de taille moyenne qui ne peut pas tenir un an et demi, et qui a les emplois en cause, va quelquefois soit être obligée de partir, soit être obligée de céder. Et donc, tout ça pour dire que, je sais que peut-être certains ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, et je pense que les entreprises dans les affaires de corruption, elles sont davantage victimes qu'opératrices.
Étienne Giros, le président des opérateurs économiques français en Afrique, entretien avec Christophe Boisbouvier, dans trois quarts d'heure en intégralité et sur RFI.fr. Et avant de retrouver Andréane Mellard pour le début des RFI Matin, direction le Gondwana, Maman, vous nous dites ce matin qu'il est important de dire qu'au Gondwana, la vie syndicale est très réglementée.
Oui, contrairement aux rumeurs malveillantes propagées par les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, au Gondwana, il y a des règles à respecter, mais aussi et surtout des règles pour taper sur les doigts des gens qui ne respectent pas ces règles-là. Il y a des droits et des devoirs, dont le droit de devoir se tenir et marcher droit. Bref, c'est un pays carré avec les quatre côtés égaux et des coins qui piquent et font très mal. La très très démocratique République est un pays pensé et dessiné par un logiciel sophistiqué. Ce n'est pas un pays ouïa ouïa, hein. Un pays n'importe quoi fait de yama yama. Par exemple, n'importe qui ne peut pas se lever un beau matin et dire qu'il va faire grève. Il y a d'abord une condition sine qua non à remplir, la majorité. Eh oui, d'abord, majorité au sens majorité présidentielle. Vous ne pouvez pas décider de faire une grève qui va enquiquiner la majorité présidentielle, mes amis. C'est-à-dire, par extension, son excellence président fondateur. Pour faire grève au Gondwana, il faut que la majorité présidentielle soit d'accord. Parce qu'il y a des grèves qu'on peut autoriser et des grèves que c'est même pas la peine d'y penser. Par exemple, les enseignants, ils ont l'autorisation de faire grève, les enseignants, quand ils veulent. Président fondateur n'en a cure. Voici des gens qui ne rapportent pas un dollar aux caisses de l'État, au contraire même. Voici des gens qu'on entend tout le temps, partout. Des gens qui ont des vacances à gauche et à droite et qui ne sont jamais contents. Eh ben du coup, au Gondwana, ils peuvent faire grève comme ils veulent, eux et leurs élèves étudiants, là. Ça ne dérange pas du tout notre leader bien-aimé. Il en rigole même. Mais dès que ça l'énerve, mais il envoie s'en fout la mort et ses gars mettre de l'ordre dans tout ça à coups de matraque et de gaz lacrymogène dans les amphis et les dortoirs. Ensuite, il y a l'autre notion de majorité, l'âge. Vous le savez tous, en très très démocratique république, c'est président fondateur qui décide qui est majeur ou mineur. Et donc, naturellement, comme partout dans le monde, t'as pas le droit de faire grève si t'es mineur, mon ami. C'est normal, logique et sans appel. Et ce n'est pas parce que tes petits camarades et toi pensent et souffrir de l'inflation, de la cherté de la vie, que vous pouvez continuer comme ça, vous mettre en grève en prenant en otage tout un pays et surtout toute une majorité présidentielle et par extension président fondateur. Vous êtes mineur, donc avant toute chose, vous devez demander l'autorisation à votre tuteur, c'est-à-dire la direction de votre société, même si elle vous doit beaucoup beaucoup d'argent, 13e, 14e mois, prime, etc. Votre direction, c'est votre tuteur légal. Vous pouvez pas faire grève tout seul, même si vous avez des leaders syndicalistes. D'ailleurs, ceux-là, on va les poursuivre pour détournement des mineurs que vous êtes. Voilà, en résumé, pas de grève parce que t'es mineur, mon ami, et surtout si ça embête notre leader bien-aimé et la majorité présidentielle. À demain.
À demain. Merci, Maman. Merci aussi à Laurent Hérault qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Pierre Pinto à la rédaction en chef ce mercredi. Et tout de suite, c'est RFI Matin qui débute. Andréane Mellard. Bonjour, Andréane.
Bonjour, Xavier. Bonjour à vous qui nous écoutez. Ravi de vous retrouver ce matin. On est ensemble sur RFI jusqu'à 10h avec toute la rédaction et au programme chronique, invité, reportage. On va beaucoup parler aujourd'hui du Soudan, encore aussi de la bande de Gaza, de l'Ukraine, des États-Unis avec ses une nouvelle taxe douanière sur l'acier et l'aluminium. Également, la Corée du Sud, on va parler de l'état des océans aussi, quelques jours avant l'ouverture du sommet de l'ONU dédié. Ça se passe en France la semaine prochaine. RFI, bon réveil à vous, belle journée. Le journal dans 30 secondes.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, la liste électorale définitive est disponible dès aujourd'hui. Nous lançons le débat alors que l'opposition réclame une révision complète du fichier électoral avant la présidentielle du mois d'octobre et la réintégration des personnalités politiques radiées.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.